Chapitre 2. De notre embarquement au port d'Honfleur, pays de Normandie, ensemble des tourmentes, rencontres, prises de navires, premières terres et îles que nous découvrîmes. Après donc que le sieur de Bois-le-Comte, neveu de Villegagnon, qui était auparavant nous à Honfleur, y eut fait équiper en guerre aux dépens du roi 3 beaux vaisseaux fournis qu'ils furent de vivres et d'autres choses nécessaires pour le voyage, le 19e de novembre, nous nous embarquâmes en Isseux. Le 10 sieur de Bois-le-Comte, avec environ 80 personnes, tant soldats que matelots, étant dans l'un des navires appelé la Petite Roberge, fut élu notre vice-amiral. Je m'embarquai en un autre vaisseau nommé la Grande Roberge, où nous étions 620 en tout, et avions pour capitaine le sieur de Sainte-Marie d'Illespine, et pour maître un nommé Jean Humbert de Honfleur, bon pilote, et comme il montra fort bien, expérimenté dans l'art de la navigation. Dans l'autre, qui s'appelait Rosé, du nom de celui qui la conduisait, en comprenant 6 jeunes garçons que nous menâmes pour apprendre la langue des sauvages, et 5 jeunes filles avec une femme pour les gouverner, qui furent les premières femmes françaises venues en la terre du Brésil, dont les sauvages du dit pays, ainsi que nous verrons ci-après, n'en ayant jamais vu auparavant de vêtus, furent bien ébahis à leur arrivée. Il y avait environ 90 personnes. Ainsi, ce même jour qu'environ midi nous mîmes voiles au vent, à la sortie du port de Honfleur, les canonnades, trompettes, tambours, fifres et autres triomphes accoutumés de faire aux navires de guerre qui vont voyager ne manquèrent point en notre endroit. Nous allâmes premièrement ancré à la rade de Caux, qui est une lieue en mer par-delà du Havre-de-Grâce. Et là, selon la façon des mariniers entreprenant de voyage en pays lointain, après que les maîtres et capitaines eurent fait revue et su le nombre certain tant des soldats que des matelots, ayant commandé de lever les ancres, nous pûmes, dès le soir, nous jeter en mer. Toutefois, parce que le câble du navire où j'étais se rompit, l'ancre à cause de cela étant tirée à grande difficulté, nous ne pûmes appareiller que jusqu'au lendemain. Le 10 jour, donc, 20e de novembre, qu'ayant abandonné la terre, nous commençâmes à naviguer sur cette grande et impétueuse mer océane, nous découvrîmes et côtoyâmes l'Angleterre, laquelle nous laissions à dextre, et dès lors fûmes pris d'un flot qui continua 12 jours durant, lesquels, entre que nous fûmes tous malades de la maladie accoutumée à ceux qui vont sur mer, encore n'y avait-il celui qui ne fût bien épouvanté de tels branlements. Et de fait, ceux principalement qui n'avaient jamais senti l'air marin ni dansé telle danse, voyant la mer aussi haute et émue, pensaient à tout coup et à toute minute que les vagues nous dussent faire couler en fond. Comme, certainement, c'est chose admirable de voir qu'un vaisseau de bois, quelque fort et grand qu'il soit, puisse ainsi résister à la fureur de ce tant terrible élément. Car combien que les navires soient bâtis de gros bois bien liés, chevillés et bien goudronnés, et que celui-même où j'étais pût avoir environ 18 toises de long et 3,5 de large, qu'est-ce en comparaison de ce gouffre et de telle largeur, profondeur et abîme mer qu'est cette grosse mer du Ponant. Partant, sans amplifier ici ce propos plus avant, je dirais seulement ce mot, en passant, qu'on ne saurait assez priser tant l'excellence de l'art de la navigation en général, qu'en particulier l'invention de l'aiguille marine, avec laquelle on se conduit, dont néanmoins, comme aucun l'écrive, l'usage n'est que depuis environ 250 ans. Nous fûmes donc ainsi agités, et naviguâmes avec grande difficulté jusqu'au 13e jour après notre embarquement, que Dieu apaisa les flots et orages de la mer. Le dimanche suivant, ayant rencontré 2 navires marchands d'Angleterre qui venaient d'Espagne, après que nos matelots les eurent abordés, vu qu'il y avait à prendre dedans, peu s'en fallut qu'ils ne les pillassent. Et de fait, suivant ce que j'ai dit, que nos 3 vaisseaux étaient bien fournis d'artillerie et autres munitions de guerre, nos mariniers s'en tenant fiers et forts, quand les vaisseaux plus faibles se trouvaient devant eux, et à leur merci, ils n'étaient pas en sûreté. En faux, puisque cela vient à propos, que je dis ici en passant à cette première rencontre de navire que j'ai vu pratiquer sur mer ce qui se fait aussi le plus souvent en terre, à savoir que celui qui a les armes au poing et qui est le plus fort l'emporte et donne la loi à son compagnon. Vrai est que messieurs les mariniers, en faisant caler la voile et joindre les pauvres navires marchands, leur allèguent ordinairement qu'il y a longtemps qu'à cause des tempêtes et calmes, sans pouvoir aborder terre ni port, ils sont sur mer en nécessité de vivre, dont ils prient qu'en payant ils en soient assistés. Mais si, sans ce prétexte, ils peuvent mettre le pied sur le bord de leurs voisins, ne demandez pas si pour empêcher le vaisseau d'aller en fond, là le décharge de tout ce qui leur semble bon et beau. Que si là-dessus, on leur remontre, comme de fait nous faisions toujours, qu'il n'y a nul ordre d'ainsi indifféremment piller autant les amis que les ennemis, la chanson commune de nos soldats terrestres, qui en semblable cas pour toute raison disent que c'est la guerre et la coutume et qu'il se faut accommoder, ne manque point en leur endroit. Mais outre cela, je dirais par manière de préface, sur plusieurs exemples de ce que nous verrons ci après, que les Espagnols, et encore plus les Portugais, se vantant d'avoir les premiers découvert la terre du Brésil, voire tout le contenu depuis le détroit de Magellan qui demeure par les 50 degrés du côté du pôle antarctique jusqu'au Pérou, et encore par deçà l'équateur, et par conséquent maintiennent qu'ils sont seigneurs de ces pays-là, alléguant que les Français qui y voyagent sont usurpateurs sur eux. S'ils les trouvent sur mer à leur avantage, ils leur font une telle guerre qu'ils en sont venus, jusque-là, d'en avoir écorché le tout vif et fait mourir d'autres morts cruelles. Les Français soutenant le contraire, et qu'ils ont leur part en ces pays nouvellement connus, non seulement ne se laissent pas volontiers battre aux Espagnols, moins aux Portugais, mais en se défendant vaillamment, rendent souvent la pareille à leurs ennemis, lesquels, pour en parler sans affection, ne les oseraient aborder ni attaquer s'ils ne se voyaient beaucoup plus forts et en plus grand nombre de vaisseaux. Or, pour retourner notre route, la mer s'étant d'herchef enflée, fut l'espace de 6 ou 7 jours si rude que non seulement je vis par plusieurs fois les vagues sauter et s'élever par-dessus le tillac de notre navire, mais aussi, étant lors à la pratique de ce qui est dit au psaume 107, nous tous, à cause de la roideur des ondes ayant les sens défaillis et chancelant comme ivrogne, le vaisseau était tellement ébranlé qu'il n'y avait matelot, tant habile fut-il, qui se pût tenir debout. Et de fait, comme il est dit au même psaume, quand de cette façon, en temps de tourmente sur mer, on est tout soudain tellement haut élevé sur ces épouvantables montagnes d'eau qu'il semble qu'on doive monter jusqu'au ciel, et cependant tout un continent on redévale si bas qu'il semble qu'on veuille prendre par-dessous les plus profonds gouffres et abîmes. Subsistant, dis-je, ainsi, au milieu d'un million de sépulcres, n'est-ce pas voir les grandes merveilles de l'Éternel ? Il est bien certain que oui. Partant, puisque par telles agitations des furieuses vagues, le péril approche souvent plus près de ceux qui sont dans les vaisseaux navigables que l'épaisseur des ailes de quoi ils sont faits, m'étant advint que le poète qui a dit que ceux qui vont sur mer ne sont qu'à 4 doigts de la mort les en éloigne encore trop, j'ai pour plus express avertissement aux navigants non seulement tourné mais aussi amplifié ces vers en cette façon. Quoique la mer par son onde bruyante fasse hérisser de peur celui qui l'hante, ce nonobstant l'homme se fie au bois qui d'épaisseur n'a que 4 ou 5 doigts de quoi est fait le vaisseau qui le porte. Ne voyant pas qu'il vit en telle sorte qu'il a la mort à 4 doigts de lui, réputé folle, on peut donc bien ni celui qui va sur mer si en Dieu ne se fie, car c'est Dieu seul qui peut sauver sa vie. Après donc que cette tempête fut cessée, celui qui rend le temps calme et tranquille quand il lui plaît nous ayant envoyé vent à gré, nous parvînmes, dit celui, jusqu'à la mer d'Espagne, et nous nous trouvâmes, le 5e jour de décembre, à la hauteur du cap Saint-Vincent. En cet endroit, nous rencontrâmes un navire d'Irlande, dans lequel nos mariniers, sous le prétexte susdit que les vivres nous faillaient, prirent 6 ou 7 pipes de vin d'Espagne, des figues, des oranges et autres choses dont elle était chargée. 7 jours après, nous abordâmes auprès des 3 îles, nommées par les pilotes de Normandie, la Gracieuse, Lancelot et Forte Aventure, qui sont les îles Fortunées. Il y en a 7 en nombre à présent, comme j'estime, toutes habitées par les Espagnols. Mais quoiqu'aucun marque en leur carte et enseigne par leurs livres que ces îles Fortunées sont situées seulement par les 11 degrés au-deçà de l'équateur, et par conséquent, selon eux, seraient sous la zone torride, je dis, pour y avoir vu prendre hauteur avec l'astrolabe, que certainement elles demeurent par les 28 degrés tirant au pôle arctique. Et partant, il faut confesser qu'il y a erreur de 17 degrés, desquels tels auteurs, en trompant eux et les autres, les reculent trop de nous. En ces endroits que nous mîmes les barques hors de nos navires, 20 de nos gens, tant soldats que matelots, s'étant mis dedans avec des berches, mousquets et autres armes, pensaient bien aller butiner en ces îles Fortunées, mais comme ils furent à bord, les Espagnols, qui les avaient découverts auparavant, les rembarrèrent de telle façon qu'au lieu de mettre pied à terre, ils n'eurent que hâte de se retirer en mer. Néanmoins, ils tournèrent et virèrent tant alentour qu'enfin, ayant rencontré une caravelle de pêcheurs, lesquels, voyant aller les nôtres à eux, se sauvèrent en terre et quittèrent leur vaisseau, après qu'ils s'en furent saisis, non seulement ils y prirent grande quantité de chiens de mer secs, des compas à naviguer, et tout ce qui s'y trouva jusqu'aux voiles qu'ils rapportèrent, mais ne pouvant pis faire aux Espagnols, desquels ils se voulaient venger, ils mirent en fond, à grands coups de hache, une barque et un bateau qui étaient auprès. Durant 3 jours que nous demeurâmes après ces îles Fortunées, d'autant que la mer était fort calme, nous prîmes si grande quantité de poissons avec des raies à pêcher que nous avions, et avec des hameçons, qu'après que nous en eûmes mangé à notre souhait, parce que nous n'avions pas l'eau douce à ce commandement, craignant que cela ne nous altérât trop, nous fûmes contraints d'en rejeter plus de la moitié en mer. Les espèces étaient dorades, chiens de mer, et autres de plusieurs sortes dont nous ne savions pas les noms. Toutefois, il y en avait de ceux que les mariniers appellent sardes, qui est une espèce de poisson lequel n'a pas seulement si peu de corps qu'il semble que la tête et la queue, laquelle il a néanmoins complètement large, soient joints ensemble, mais encore entre ceux-là, ayant la dite tête faite en façon de morion à crête, il est de forme assez étrange. Le mercredi matin, 16e de décembre, que la mer s'émut d'Erchef, les vagues remplirent si soudainement la barque, laquelle, dès le retour des îles Fortunées, était amarrée à notre navire, que non seulement elle fut submergée et perdue, mais aussi 2 matelots qui étaient dedans pour la garder furent en si grand danger qu'à peine en leur jetant hâtivement des cordages, les pûmes nous sauver et tirer dans le vaisseau. Et au surplus, je dirais aussi pour chose remarquable que comme notre cuisinier durant cette tempête, laquelle continua 4 jours, eut mis un matin dessalé du lard dans une grande coque de bois, il y eut un coup de mer qui, de son impétuosité, sautant par-dessus le tillac, l'ayant emporté de plus de la longueur d'une pique hors du navire, une autre vague, tout soudain, venant tout à l'opposite sans renverser la dite coque, de grande raideur la rejeta sur le même tillac avec ce qui était dedans, tellement que cela fut nous renvoyer notre dîner, lequel, comme on dit communément, s'en était allé à volo. Or, dès le vendredi 8e du 10 mois de décembre, nous découvrîmes la Grande Canarie, de laquelle, dès le dimanche suivant, nous approchâmes assez près. Mais à cause du vent contraire, quoique nous eussions délibéré d'y prendre des rafraîchissements, il ne nous fut pas possible d'y mettre pied à terre. C'est une belle île habitée aussi à présent des Espagnols, en laquelle ils croient force cannes de sucre et de bon vin, et du reste est si haute qu'on peut la voir de 25 ou 30 lieues. Aucun l'appelle autrement, le pic de Ténérife, et pense que ce soit ce que les anciens nommaient le mont Atlas, dont on dit la mer Atlantique. Toutefois, d'autres affirment que la Grande Canarie et le pic de Ténérife sont 2 îles séparées. de quoi je me rapporte à ce qui en est. Ce même jour de dimanche, nous découvrîmes une caravelle de Portugal, laquelle étant au-dessus du vent de nous, et voyant par ce moyen ceux qui étaient dedans qu'ils ne pourraient ni résister ni fuir, calant la voile, se vinrent rendre à notre vice-amiral. Ainsi nos capitaines, qui dès longtemps auparavant avaient arrêté entre eux de s'accommoder, comme on parle aujourd'hui, d'un vaisseau de ceux qu'ils s'étaient toujours promis de prendre ou sur les Espagnols ou sur les Portugais, afin de s'en saisir et mieux assurer, mirent un continent de nos gens dedans. Toutefois, à cause de quelques considérations qu'ils eurent envers les maîtres d'Issel, lui ayant dit qu'en cas qu'il pût soudainement trouver et prendre une autre caravelle en ces endroits-là, qu'on lui rendait la sienne à lui, qui de sa part aussi aimait mieux que la perte tombât sur son voisin que sur lui, après que selon la requête qu'il fit, on lui eut baillé une de nos barques armées de mousquets, avec 20 de nos soldats et une partie de ses gens dedans, comme vrai pirate que j'ai opinion qu'il était, afin de mieux jouer son rôle et de n'être pas découvert, il s'en alla bien loin de nos navires. Or, nous côtoyions lors la barbarie habitée de morts, de laquelle nous n'étions guère éloignés que d'environ 2 lieues. Et comme il fut soigneusement observé de plusieurs d'entre nous, c'est une terre pleine, voire si fort basse, que tant que notre vue se pouvait étendre, sans voir aucune montagne ni autre objet, il nous était avis que nous étant plus haut que tout ce pays-là, il dut être un continent submergé, et que nous et nos vaisseaux dussions passer par-dessus. Et à la vérité, combien qu'au jugement de l'œil, semble-t-il être ainsi presque sur tous les rivages de la mer, n'est-ce qu'alors se remarquant plus particulièrement en cet endroit-là, et d'autre part la mer à l'opposite, sans air l'or autrement ému, néanmoins en comparaison faisant une grande et épouvantable montagne, en me ressouvenant de ce que l'Écriture dit à ce propos, je contemplais cette œuvre de Dieu avec une grande admiration. Pour retourner à nos écumeurs de mer, lesquels, comme j'ai dit, nous avaient devancés dans la barque, la 25e de décembre, jour de Noël, eux ayant rencontré une caravelle d'Espagnols et tiré sur Isseux quelques coups de mousquet, la prenant ainsi, par force, ils l'amenèrent auprès de nos navires. Et parce que c'était non seulement un beau vaisseau, mais qu'aussi étant chargé de sel blanc, cela plus fort à nos capitaines, selon la conclusion que j'ai déjà dit qu'ils avaient faite dès longtemps de s'en accommoder d'un, l'emmenèrent, quant et nous, en la terre du Brésil, vers Villegagnon. Vrai est qu'on tint promesse aux Portugais qui avaient fait cette prise de lui rendre la caravelle. Mais nos mariniers cruels qu'ils furent en cet endroit, ayant mis tous les Espagnols dépossédés de la leur, pêle-mêle, parmi les Portugalois, non seulement ils ne laissèrent morceaux de biscuits dit d'autres vivres à ces pauvres gens, mais qui pisaient, leur ayant déchiré leurs voiles, et même ôté leur petit bateau sans lequel toutefois ils ne pouvaient approcher ni aborder terre, je crois par manière de dire qu'il eût mieux valu les mettre en fond que les laisser en tel état. Et de fait, étant ainsi demeurés à la merci de l'eau, si quelque barque ne survint pour les secourir, il est certain qu'ils furent enfin submergés ou qu'ils moururent de faim. Après ce beau chef-d'œuvre, fait au grand regret de plusieurs, étant poussé du vent d'est-sud-est qui nous était propice, nous nous rejetâmes bien avant dans la haute mer. Et afin qu'en récitant particulièrement tant de prises de caravelle que nous fîmes en allant, je ne sois ennuyeux au lecteur, dès le lendemain, et encore le 29e du 10 mois de décembre, nous en prîmes 2 autres, lesquelles ne firent nulle résistance. En la première, qui était de Portugal, combien que nos mariniers, et principalement ceux qui étaient dans la caravelle espagnole que nous emmenions, eussent grande envie de la piller, à cause de quoi tirèrent quelques coups de fenonceau à l'encontre, si est-ce qu'après que nos maîtres et capitaines eurent parlé à ceux qui étaient dedans, pour quelque respect, on les laissa aller sans leur rien ôter. En l'autre, qui était un Espagnol, il lui fut pris du vin, du biscuit et d'autres victuailles. Mais surtout, il regrettait merveilleusement une poule qu'on lui ôta. Car comme il disait, quelque tourmente qu'il fît, ne laissant point de pondre, elle lui fournissait tous les jours un œuf frais dans son vaisseau. Le dimanche suivant, après que celui qui était au guet dans la grande hune de notre navire eut, selon la coutume, crié « voile, voile !» et que nous eûmes découvert 5 caravelles ou grands vaisseaux, car nous ne le pûmes bien discerner, nos matelots, lesquels, possible, ne seront pas joyeux que je raconte ici leur courtoisie, ne demandant cous, c'est-à-dire d'en avoir de toutes parts, chantant les cantiques devant le triomphe, les pensaient déjà bien tenir. Mais parce qu'étant au-dessus de nous, nous avions vent contraire, et eux cependant cinglaient et fuyaient tant qu'ils pouvaient, nonobstant la violence qu'on fit à nos navires, lesquels, pour l'affection du butin, en danger de nous submerger et virer ce dessus-dessous, furent armés de toute voile, il ne fut pas possible de les joindre ni aborder. Et afin que nul ne trouve étrange tout ce que je dis ici, que ce que j'ai déjà touché ci-devant, à savoir que nous bravant ainsi sur mer en allant dans la terre du Brésil, chacun fuyait ou calait la voile devant nous, je dirais là-dessus que, encore que nous n'eussions que 3 vaisseaux, si bien fournis toutefois d'artillerie qu'il y avait 18 pièces de bronze et plus de 30 berches et mousquets de fer, sans les autres munitions de guerre en celui où j'étais. Néanmoins nos capitaines, maîtres, soldats et mariniers, la plupart normands, nation aussi vaillante et belliqueuse sur mer qu'autre qui se trouve aujourd'hui voyageant sur l'océan, avaient en cet équipage non seulement résolu d'attaquer et combattre l'armée navale du roi du Portugal, si nous l'eussions rencontré, mais aussi se promettait d'en remporter la victoire.